Bienvenue dans Droit, le podcast qui vous permet en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Dans chaque épisode, nous plongerons dans des sujets juridiques variés, depuis les dernières décisions de justice jusqu'aux notions fondamentales du droit, afin de vous donner les connaissances nécessaires pour naviguer dans un monde de plus en plus juridique. Je suis Laïla Majid, avocate au barreau de Paris, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 33e épisode de En droit. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler des droits des salariés expatriés à l'étranger. Un salarié relèvera soit du droit de détachement ou de l'expatriation, selon les circonstances, dans les cas où son employeur lui demande d'effectuer sa mission professionnelle à l'étranger. Ainsi, un salarié est détaché s'il remplit trois conditions. 1. Il doit rester salarié de l'entreprise française. 2. Il doit être muté à l'étranger pour une durée déterminée. Et 3. Il doit continuer à être rémunéré par l'entreprise française qui s'engage à verser au régime français l'intégralité des cotisations afférentes au salaire. Alors que le salarié expatrié par rapport au salarié détaché est implanté plus durablement à l'étranger, il est titulaire d'un contrat de travail local et il n'a pratiquement, voire plus de lien avec l'entreprise d'origine. Au regard de la sécurité sociale, le salarié est expatrié lorsqu'il cesse de relever de la sécurité sociale française, parce que soit la durée maximale autorisée pour le détachement a été dépassée, ou soit que les conditions du détachement ne sont pas remplies. S'il existe un régime de sécurité sociale obligatoire dans le pays d'accueil, il doit y être affilié et y cotiser. S'il n'en existe pas, il peut dans ce cas recourir à des assurances privées ou adhérer à la Caisse des Français à l'étranger et ainsi il se voit couvrir contre les risques de maladie, maternité, invalidité, accident de travail et vieillesse. Quant à la loi applicable au contrat de travail, elle se pose dans deux conditions. 1. Lorsque le salarié expatrié est embauché directement par un employeur étranger. Dans ce cas, son contrat de travail local est conclu selon le droit applicable du pays dans lequel il accomplit sa prestation. Et 2. Lorsque le salarié expatrié est embauché par l'intermédiaire d'un employeur situé en France, son contrat de travail, comme pour le salarié détaché, et ses conditions d'expatriation peuvent être régies par le droit français. Autrement dit, son contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil est régi par la loi du pays d'accueil. Néanmoins, et dans tous les cas de figure, le contrat de travail du salarié expatrié doit mentionner 1. La durée d'expatriation, 2. La devise servant au paiement de la rémunération, 3. Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation, et 4. Les conditions de rapatriement du salarié. En effet, le salarié expatrié qui a été embauché par la société mère du groupe et qui a conclu un contrat de travail avec la filiale étrangère a un droit au retour. On va s'attarder sur la question de savoir si l'accord du salarié est nécessaire lorsqu'il y a une mobilité internationale. À cette question, la Chambre sociale de la Cour de cassation y avait déjà répondu dans un arrêt du 11 juillet 2012. Dans cette affaire, le salarié a été recruté en qualité de consultant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et dans son contrat de travail au paragraphe intitulé, je cite, lieu d'exécution des fonctions, il était prévu que, je cite, dans le cadre de ses activités, le salarié pourra être amené à assurer des missions à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit en France ou hors de France, pour une durée plus ou moins longue, ce qu'il accepte expressément. Et que de façon générale, l'employeur et le salarié reconnaissent expressément que la mobilité du salarié dans l'exercice de ses fonctions constitue une condition substantielle du présent contrat sans laquelle il n'aurait pas contracté. Dans cette affaire, donc, le salarié a refusé de se rendre à une réunion à l'étranger dans le cadre de ses missions et il a été licencié par son employeur pour faute grave. La cour d'appel a jugé ce licenciement injustifié au motif que la clause de mobilité dont se prévaut la société qui a employé le salarié était trop imprécise en l'absence d'indication sur la limite géographique dans laquelle la mobilité professionnelle du salarié pouvait intervenir. Or, ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui a censuré l'arrêt des juges du fond en ce que pour la haute juridiction, les premiers juges se sont fondés sur des motifs inopérants tirés des conditions de validité d'une clause de mobilité, alors que le déplacement refusé par le salarié s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international. Ainsi, le salarié qui refuse de manière illégitime tout déplacement à l'étranger rend impossible l'exécution de son contrat de travail. Ainsi, son comportement peut s'analyser en un abandon de poste, justifiant une mise à pied à titre conservatoire et un licenciement pour faute grave. Donc, et il y a une jurisprudence constante, dans certaines situations, l'accord du salarié n'est pas nécessaire et la mobilité internationale s'impose à lui dès lors que le déplacement à l'étranger demandé par son employeur relève de ses fonctions habituelles précisées dans son contrat de travail et qui sont en relation avec l'activité internationale de l'employeur. Vous pouvez retrouver cet épisode sur mon blog. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse continuer cette aventure juridique avec vous. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.